Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons de lire dans l'épître de cette messe le passage de la première épître aux Corinthiens qu'on appelle communément l'hymne à la charité. C'est peut-être la plus belle page qu'a écrite saint Paul, où l'on sent passer toute son âme. C'est un texte que tout chrétien devrait souvent relire et méditer et qui mérite même d'être appris par cœur. Pour bien le comprendre, il faut se reporter au contexte, c'est-à-dire au chapitre précédent, et savoir de quoi parle saint Paul juste avant. Eh bien, il parle des charismes. Les charismes, ce sont ces grâces extraordinaires qu'on appelle gratis date, données gratuitement, que Dieu confère de manière transitoire à une personne particulière pour le bien et l'utilité de la communauté chrétienne. Ces charismes sont assez nombreux. Certains concernent l'enseignement de la doctrine et la prédication, comme par exemple le charisme de science ou le don des langues. D'autres regardent la connaissance du futur ou des secrets des cœurs, comme le don de prophétie. Et puis d'autres encore concernent les œuvres extérieures, comme le don des miracles, le don de guérison. Ces charismes, vous le savez, étaient particulièrement répandus à l'âge apostolique, parce que l'Église primitive, qui était encore peu étendue, fragile, avait besoin de s'affermir. Or, les charismes étaient une preuve sensible de la présence et de l'action de Dieu. En voyant ces phénomènes miraculeux qui ne pouvaient venir que de Dieu, les païens se convertissaient. Mais avec le temps, cela donna lieu à des abus. Quelques-uns se mirent à rechercher de façon désordonnée les manifestations de l'esprit par curiosité malsaine ou par un désir immodéré de faveurs extraordinaires. Et c'était le cas à Corinthe. À Corinthe, où par un vieux reste de mentalité païenne, des chrétiens prisaient plus que de raison les phénomènes extatiques. On voit d'ailleurs encore cela aujourd'hui chez les charismatiques ou chez les pentecôtistes, et c'est très dangereux. Alors saint Paul fut obligé d'y mettre bon ordre en fixant des critères qui permettent de discerner les charismes authentiques des contrefaçons diaboliques et en expliquant que ces charismes, voulus temporairement par Dieu pour l'utilité de l'Église, ne sont absolument pas les dons les meilleurs et ne doivent donc pas être recherchés pour eux-mêmes. Et en terminant sa démonstration, saint Paul écrit aux Corinthiens: aspirez donc à des dons supérieurs. D'ailleurs, je vais vous montrer une voie plus excellente. Et cette voie, c'est la voie de la charité, qui surpasse tous les dons, parce que la charité est le principe et la fin de la vie chrétienne, la racine et le couronnement de toutes les vertus. La perfection de la vie chrétienne, ça n'est rien d'autre que la perfection de la charité. Dans ce texte, vous l'avez entendu, saint Paul ne définit pas la charité. Il suppose que la définition est connue. De même, vous avez pu remarquer, en écoutant la lecture de l'épître, que la charité que chante saint Paul, c'est surtout la charité envers le prochain. Mais il ne faut pas s'y tromper. L'amour du prochain dérive de l'amour de Dieu. La charité dont saint Paul fait ici l'éloge, c'est la vertu théologale qui accompagne la grâce sanctifiante. C'est la vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu de tout notre cœur, par-dessus toute chose, et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est la définition même de la charité. Alors dans ce texte, vous l'avez sans doute noté, on peut distinguer trois grandes idées. Saint Paul souligne d'abord la nécessité, l'excellence de la charité, puis il énonce ses qualités en faisant voir qu'avec elle, toutes les vertus sont exercées. Et il prend toute une liste d'actes où il montre que la charité intervient. Et puis enfin, il montre la permanence de cette vertu de charité. La charité ne finira jamais. Pour établir la nécessité et la supériorité de la charité sur tous les autres dons, saint Paul choisit trois exemples caractéristiques. D'abord, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant et une cymbale retentissante. Saint Paul ici veut parler du don des langues, qui était spécialement recherché des Corinthiens parce que ce charisme, destiné à frapper les infidèles, flattait la vanité des fidèles de Corinthe. Pour eux, c'était source de prestige. D'ailleurs, encore de nos jours, sans qu'il soit question de glossolalie, quand quelqu'un parle beaucoup de langues étrangères, on est vraiment impressionné. On se dit, cette personne, c'est quelqu'un de très doué. Dans la pensée de l'apôtre, pourtant, ce don des langues ne venait qu'en dernier. C'était le plus petit des charismes. Et c'est pourquoi il l'immole en premier sur l'autel de la charité. Il dit donc, quand je parlerai toutes les langues des hommes, et il ajoute, et des anges, un peu comme s'il disait, toutes les langues possibles et imaginables, à moins qu'il veuille désigner par ces mots les hommes qui exercent le ministère des anges, c'est-à-dire ceux qui enseignent aux autres les choses divines, les prédicateurs de l'Évangile. Eh bien, sans la charité, tout cela n'est que du bruit. La parole qui n'est pas unie à la charité est comparable au son d'un instrument de métal sans vie. Elle peut bien être disserte, captivante, brillante, rendre un son éclatant, multiplier les effets oratoires, mais pour celui qui la profère comme pour ceux qui l'entendent, sans la charité, elle est spirituellement morte. Elle ne produit aucun fruit surnaturel. Entendez bien, saint Paul ne dit pas que cette parole ne vaut absolument rien. Il dit qu'elle ne vaut rien au plan surnaturel, pour la vie intérieure de l'âme, pour le ciel. Cette première leçon, évidemment, s'adresse à tous les chrétiens qui ont une quelconque charge d'enseignement ou de parole, et tous, on a plus ou moins cela, d'une manière ou d'une autre. Non seulement il ne faut jamais parler pour ne rien dire, ou dire des choses mensongères, mais il faut que nos paroles procèdent toujours de la charité, même lorsqu'elles traitent de sujets tout à fait profanes. Et puis bien sûr, cette leçon vaut plus encore pour les prédicateurs de l'Évangile. La parole qu'ils ont mission de prêcher, c'est la parole de Dieu. Pour qu'elle produise son fruit, il faut qu'elle procède de la foi et d'une foi animée par la charité. C'est ce qu'avait très bien compris, par exemple, le curé d'Ars. Le curé d'Ars n'était pas un orateur extraordinaire, c'était pas un orateur de talent. Mais les sermons et les catéchismes du curé d'Ars convertissaient les âmes en profondeur, parce que la charité débordait de son cœur. Le deuxième exemple choisi par saint Paul regarde les dons qui se rapportent à la pensée et à la connaissance. Il en cite quatre, la prophétie, la sagesse, la science et la foi. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, c'est la sagesse, que j'aurai une parfaite science de toutes choses, et quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On pourrait résumer de cette manière, quand j'aurai une connaissance parfaite de toutes choses, y compris des choses de Dieu, jusqu'au plus secret, jusqu'au plus sublime, si j'ai pas la charité, je ne suis rien. Et de fait, le savoir, plus encore que l'éloquence, est très prisé par les hommes. Il n'y a qu'à voir l'importance que le monde accorde aux diplômes ou aux titres universitaires. Alors, quand il s'agit d'un savoir encyclopédique, qui embrasse toutes les connaissances, qui perce même les secrets de Dieu, bah évidemment, c'est très flatteur. Eh bien, si ce savoir éminent, merveilleux, à supposer qu'il puisse exister, ne s'accompagne pas de la charité, l'homme qui le posséderait ne serait rien, rien dans l'ordre surnaturel de la grâce. Dieu ne le connaîtrait pas, ou plutôt ne le reconnaîtrait pas pour sien. Toutes ces connaissances, au fond, ne serviraient qu'à l'enorgueillir. Selon le mot de saint Paul, la science enfle et la charité édifie. Il est intéressant de noter au passage que n'être rien, être néant, du néant, c'est exactement le mot employé par l'Écriture pour qualifier les idoles. Les saintes lettres disent, des idoles, elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Parce qu'elles sont du néant. Eh bien, c'est exactement l'image de ce que devient la science quand elle est séparée de Dieu. C'est une science aveugle et sourde, inutile et souvent même nuisible. Le troisième exemple donné par saint Paul concerne les œuvres de bienfaisance corporelle. Saint Paul dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres et que je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien ». Comme le fait remarquer saint Jean Chrysostome, saint Paul, vous le voyez, fait exprès de choisir des situations extrêmes pour rendre plus convaincante la nécessité de la charité. Il ne dit pas « quand je donnerai aux pauvres la moitié » ou les deux tiers, ou les trois quarts de mon bien. Non, il dit tout mon bien. Comme il avait dit avant, la foi a transporté les montagnes, et non pas simplement une grande foi. Car enfin, que peut-on faire de plus que de donner tous ses biens, avec libéralité, en faveur de ceux qui en ont le plus besoin? Et a fortiori, que peut-on faire de mieux que de sacrifier sa vie, et en plus dans des souffrances extrêmes, comme d'être brûlé vif? N'est-ce pas justement le propre du martyr, l'indice d'une charité parfaite? Eh bien non. Si je fais ces choses qui, aux yeux de tous, paraissent les plus généreuses, on serait même tenté de dire les plus charitables, si je les fais en dehors de la charité, précisément, c'est-à-dire en restant attaché au péché mortel ou par vaine gloire, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire, cela reste sans fruit quant au mérite de la vie éternelle. Vous voyez qu'ici encore, saint Paul ne dit pas que ses œuvres sont mauvaises. Elles peuvent être même très bonnes au plan naturel. Les exemples qu'il prend, d'ailleurs, le montrent de façon éloquente. Mais cela n'empêche pas que sans la charité, ses œuvres ne servent à rien au plan surnaturel. Elles sont sans profit pour le ciel, parce qu'il leur manque d'avoir été accomplies en état de grâce, avec une intention surnaturelle. Alors, ce qui, évidemment, n'est pas le cas du vrai martyr. Le vrai martyr, précisément, est toujours inspiré par la charité. Il ne peut pas y avoir de vrai martyr s'il n'y a pas la grâce. Ainsi, au bout du compte, que ce soit dans l'ordre de la parole, de la pensée ou de l'action, tout est vain, tout est vide, tout est néant pour la vie de l'âme, pour le ciel. Il n'y a ni don de grâce, ni mérite, ni récompense naturelle s'il n'y a pas la charité. Dans l'ordre de la grâce, c'est comme ça. La charité, donc, vous le voyez, est absolument nécessaire au salut. Sans elle, quand bien même on serait doué des plus grands dons, des plus belles qualités naturelles, qu'on accomplirait les plus grandes choses, on ne peut rien faire ni rien mériter dans l'ordre de la grâce. C'est une vérité qu'il faut souvent méditer, et sérieusement, parce qu'on n'a qu'une vie, et elle ne revient pas. Après avoir ainsi montré la nécessité de la charité, saint Paul nous dit ensuite quelles en sont les qualités et l'efficacité. Il fait voir que non seulement sans la charité, rien ne se suffit, c'est ce qu'il vient de démontrer, mais que la charité, elle, suffit à tout, car elle contient et implique toutes les vertus. Autrement dit, par la charité, les actes de toutes les vertus seront accomplis, et accomplis parfaitement, et tous les vices, eux, seront détruits. C'est pourquoi, et ça c'est très important de le comprendre pour notre vie spirituelle, pour avancer dans chaque vertu, il est moins sûr et moins efficace d'exercer les actes de cette vertu propre que de produire des actes de charité. Quand on grandit en charité, toutes les autres vertus infuses grandissent avec. C'est l'illustration de ce que la théologie enseigne en disant que la charité est l'âme, la fin et le couronnement de toutes les vertus. C'est elle qui permet à chaque vertu infuse d'atteindre sa perfection. Alors saint Paul, vous l'avez entendu, montre ça de manière très concrète, en énumérant un certain nombre d'actes vertueux que la charité transforme et d'actes vicieux que la charité détruit. Il le montre d'abord en général, en résumant tout en deux mots. La charité est patiente, dit-il, et la charité est bonne. La vertu, en effet, si on la prend en général, elle consiste en deux choses, éviter le mal et faire le bien. Eh bien, par rapport au mal, la charité est patiente, c'est-à-dire que c'est elle qui nous fait supporter le mal, parce qu'elle nous fait supporter tous les maux et toutes les épreuves. Quand on aime, on supporte facilement pour la personne aimée des choses difficiles ou pénibles. Et c'est pourquoi celui qui aime Dieu sera prêt à supporter patiemment, pour l'amour de Dieu, toutes sortes d'adversités et de maux. Et puis la charité est bonne, ça c'est par rapport au bien. Le latin dit « benignia est », elle est bénigne. La bénignité tire son nom de la bonté, la bonitas, et du feu, ignis. C'est un bon feu la charité, c'est comme un bon feu qui réchauffe, qui fait fondre les haines, les rancœurs, les craintes, les égoïsmes et tous les vices. Elle liquéfie les cœurs, comme le feu. elle purifie et elle bonifie, elle transfigure tout ce qu'elle touche. C'est un peu comme une baguette magique. Alors après cela, saint Paul passe en revue un certain nombre d'actes de vertu particulières, spécialement de celles qui manquaient le plus aux Corinthiens. Il n'est pas possible ici de détailler toutes ces belles transformations que la charité produit jusque dans les vertus elles-mêmes. Saint Thomas le fait avec beaucoup d'à-propos et de finesse dans son commentaire de cette épître. Ça vaut le coup de s'y reporter si vous avez l'occasion. C'est une très belle lecture spirituelle. Signalons juste que pour terminer son énumération, saint Paul finit par un triple éloge qui donne lieu à des interprétations variées. Il dit « la charité croit tout, elle espère tout, elle endure tout ». C'est un peu étonnant, la charité croit tout. Ça paraît pas très vertueux d'être crédule. Alors saint Thomas fait remarquer justement que ces mots, à moins de les prendre dans un sens figuré, une espèce de bienveillance que la charité nous pousse à avoir, il ne faut pas penser à mal, mais saint Paul l'a déjà dit plus haut ça. Donc à moins de prendre ces mots dans un sens figuré, il faut les appliquer aux vertus théologales. La charité perfectionne les vertus théologales elles-mêmes, les vertus qui regardent Dieu. Car, dit saint Thomas, croire tout ce qui est dit par les hommes, c'est légèreté. C'est ce qu'on appelle la crédulité, ce n'est pas une vertu. De même, il n'y a que de Dieu qu'on puisse tout espérer. Et pour que l'attente ne nuise pas à l'espérance lorsque ce que Dieu a promis tarde à arriver, eh bien la charité nous fait tout supporter. Alors compris comme ça, c'est beaucoup plus profond, c'est plus clair. Permettez-moi juste, pour terminer, de vous citer un tout petit extrait du commentaire que saint Jean Chrysostome a donné de cette épître. Saint Jean Chrysostome a commenté avec beaucoup de bonheur toutes les épîtres de saint Paul. Il nous montre que la charité n'est pas simplement une vertu, elle est la vertu. Voici ce qu'il dit. « Comme une abeille laborieuse, la charité va partout recueillir son miel pour le déposer dans l'âme de celui qui aime. Elle vient à nous. » Les mains pleines, quelle mère est plus caressante, quelle reine est plus riche? Tous les travaux sont par elle rendus légers et faciles. Elle sème de fleurs le chemin de la vertu et d'épines celui du vice. C'est bien dit. Et il continue, la charité c'est la grande maîtresse, celle qui nous peut arracher à l'erreur, adoucir nos mœurs, aplanir la voie de la sagesse, et avec des pierres, faire des hommes. Vous voulez connaître toute son efficacité? Amenez-moi un homme peureux, qui craigne le moindre bruit, qui ait peur de son ombre, qu'il soit colère, intraitable, plutôt bête qu'homme, lubrique, débauché, atteint de tous les vices. Livrez-le aux mains de la charité, et vous verrez aussitôt cet homme timide et créatif devenir vertueux, magnanime et capable de tout oser. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ces changements ne sont point naturels. Mais dans cette âme timide, c'est la charité qui déploie sa puissance. C'est comme si une épée de plomb, sans devenir de fer, et tout en conservant sa nature de plomb, pouvait produire les mêmes effets que le fer. Voilà le miracle qu'opère la charité dans toutes les vertus. Et alors enfin, saint Paul couronne son cantique en montrant que la charité est la vertu non seulement du temps, mais de l'éternité. Nous avons la charité ici-bas, et nous l'aurons pour l'éternité. Saint Jean a dit de Dieu qu'il était charité. C'est sa définition, Deus caritas est. Eh bien, comme Dieu lui-même, la charité ne change pas, elle ne finit pas. Tous les dons surnaturels, qui d'ailleurs n'ont de prix que par la charité, disparaîtront. Tous ces dons disparaîtront. Au ciel, il n'y aura plus de prophétie, il n'y aura plus de science, il n'y aura plus de dons des langues. Il n'y aura plus de miracles. Même la foi et l'espérance cesseront. La foi cédera la place à la vision béatifique et l'espérance à la possession et à la fruition de Dieu contemplée face à face. On ne peut pas espérer et voir en même temps. On ne peut pas croire et voir en même temps. Mais la charité, elle demeurera. Et ce sera la même que celle qui nous est donnée ici-bas au baptême et que nous devons faire grandir tout au long de notre vie en faisant des actes de charité de plus en plus parfaits. La seule différence, c'est qu'au ciel, ce sera la charité de l'éternité, une charité qu'on ne pourra plus perdre et qui ne grandira plus. Nous serons fixés dans le degré de charité qui sera le nôtre à l'heure de notre mort. Mais essentiellement, ça sera la même charité que celle qui accompagne la grâce ici-bas. Alors en d'autres termes, ça veut dire que par la charité, nous possédons dès maintenant, dès cette vie, les arts de la vie éternelle. C'est quand même extraordinaire. Nous fêtons aujourd'hui le 160e anniversaire des apparitions de l'Immaculée Conception à Lourdes. Eh bien, demandons-lui, si vous le voulez, qu'elle nous préserve de tout péché grave pour bien garder la charité dans notre âme, qu'elle nous maintienne dans l'amitié de Dieu et qu'elle nous obtienne la grâce d'une charité toujours plus grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.